Et je crois que je vais me tourner tout de suite vers Laurent Laganyé. Que fait donc Free ? Après l'annonce de juillet dernier, finalement, sur ces sujets-là, c'est un peu silencieux. C'est vrai qu'on vous entend, on entend plus parler de vous en fait, à propos du mobile. Donc comment voyez-vous votre intervention dans ces zones ? Comment voyez-vous la montée vers le très haut débit ?
Merci. Donc, effectivement, peut-être que notre actualité est un petit peu plus orientée sur le mobile en ce moment, sur, en tout cas dans les semaines qui vont venir. Sur la fibre, hein, j'aimerais juste rappeler, pour lever toute ambiguïté, que nous avons cru à la fibre chez Free, et nous continuons à croire à la fibre, et nous continuerons à croire à la fibre. Nous avons lancé le déploiement à la fin de la dernière décennie, donc nous êtes le premier opérateur d'envergure nationale à lancer les déploiements en fibre. Nous avons un petit peu lancé le marché dans cette direction. Aujourd'hui, notre plan d'investissement est en cours, effectivement, essentiellement dans les zones très denses. Et nous investissons quand même de l'ordre d'un million d'euros par jour. Alors, par jour ouvré. Le dimanche, nous investissons.
Sans les vacances.
Non, même pendant les vacances. Ouais. Effectivement, cet été, nous avons... Non, mais peut-être que c'est pas assez. Mais enfin, ça, pour un opérateur dont le chiffre d'affaires est de 2 milliards d'euros, investir 1 million d'euros par jour dans la fibre, c'est beaucoup. Comme nous continuons par ailleurs nos investissements dans le dégroupage et la montée en débit, j'y reviendrai, nous investissons au total de l'ordre de 40% de notre chiffre d'affaires. Il n'y a, je crois, aucune entreprise en France qui investit 40% de son chiffre d'affaires tous les ans. Nous avons signé effectivement cet été un accord d'investissement, de co-investissement avec France Télécom en zone moins dense. Et nous avons engagé des discussions avec SFR visant à complémenter cet accord et pouvoir co-investir donc sur 5 à 10 millions de prises situées en zone moins dense. Alors ça ne fait pas 100% de la zone moins dense, effectivement les territoires ruraux ne sont pas concernés à ce stade et ils devront bien être concernés un jour par la fibre. Effectivement, la vision est claire. À terme, il y aura 100% des ménages français raccordés en fibre. En revanche, nous pensons, je suis désolé de le dire, qu'il est trop tôt et, pour tout dire, opérationnellement impossible pour fibrer 100% de la France dans les 5 ans. Alors, je ne vais pas dire... Enfin, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas raccorder en fibre les hôpitaux. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas raccorder en fibre les lycées ou les universités. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas raccorder en fibre les zones d'activité. Même si, bon, il peut y avoir une dimension de pensée magique. Hein. C'est pas parce qu'on va fibrer une zone artisanale que IBM va s'implanter aussi. Mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas fibrer les zones d'activité. J'ai dit qu'il était trop tôt pour envisager dans les 5 ans, et même probablement dans les 10 ans, un déploiement sur 100% des ménages en zone rurale, en fibre. Et d'ailleurs, c'est probablement pas faisable industriellement. Nous n'avons probablement pas l'outil industriel permettant de dépenser 30 milliards d'euros dans les réseaux, ou 20 milliards, enfin, en 5 ou 10 ans. À moins d'importer massivement de la main-d'œuvre étrangère, ce qui n'est probablement pas l'objectif si nous voulons créer de l'emploi en France. En fait, le déploiement de la fibre optique va vraisemblablement prendre de l'ordre d'une vingtaine d'années. Quand on regarde le délai qui a été nécessaire pour déployer les autres réseaux de boucle locale, je pense à l'électricité, à l'eau, on voit bien que ça ne se fait pas en 10 ans. Au téléphone. Le téléphone s'est déployé en 20 ans. La fibre ne mettra pas moins de 20 ans. D'ailleurs, le téléphone s'était déployé en 20 ans sous une pression des abonnés forte. C'est-à-dire qu'il y avait la queue dans les agences de France Télécom pour obtenir le téléphone et des listes d'attente de plusieurs mois. Aujourd'hui, en passant devant une agence Orange ou devant un Free Center à Rouen, par exemple, on ne voit pas encore, de file d'attente pour avoir la fibre. Donc la question des solutions transitoires qui ont donc été évoquées, et je les en remercie par M. le sénateur Moret et par M. Quinquennel, se pose vraiment. La première des solutions transitoires, je suis désolé, ça va paraître très première décennie du siècle, Mais la première des solutions transitoires pour environ 6 à 7 millions de ménages, c'est le dégroupage. C'est-à-dire que nous dégroupons environ 80% de la population. Il y a quand même 20% de la population, c'est-à-dire 6 millions de ménages, qui n'ont pas accès au triple play free. Et d'ailleurs, triple play des autres opérateurs non plus. Parce que le dégroupage n'a pas été poussé jusqu'à cette zone. Alors, donc effectivement, je m'adresse, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup de collectivités en face de moi, aux collectivités qui ont des réseaux d'initiatives publiques de collecte. Il y a beaucoup de réseaux d'initiatives publiques de collecte qui permettraient d'étendre le dégroupage parce que la fibre est déjà dans le sol. Et le dégroupage n'est juste pas poussé plus loin parce qu'il y a un problème de catalogue tarifaire ou un problème technique résiduel. Mais nous avons quelques départements, dont la Haute-Marne, par exemple, où nous nous sommes engagés avec le département à dégrouper 100% des répartiteurs et 100% des sous-répartiteurs concernés par la montée en débit. Nous sommes capables de prendre ce type d'engagement avec d'autres départements sous réserve de tomber d'accord sur des conditions techniques et tarifaires. Or, aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, les discussions n'ont même pas lieu. La deuxième étape pour la montée en débit, pour nous, c'est quand même beaucoup la montée en débit sur la boucle locale cuivre. Plus peut-être que les solutions hertziennes, en tout cas pour nous en tant que fournisseurs de services. Pas pour dénigrer les solutions hertziennes, mais nous avons un outil industriel fondé sur le dégroupage et la boucle locale cuivre. Donc une fois qu'un sous-répartiteur est réaménagé en répartiteur et relié par un réseau de collecte à un répartiteur que nous dégroupons déjà, nous souhaitons être présents au sous-répartiteur. Enfin, je le dis autrement, si nous dégroupons un répartiteur et qu'une collectivité a un projet de montée en débit concernant un sous-répartiteur dans la zone pour résorber une zone blanche, nous dégrouperons le sous-répartiteur. C'est-à-dire nous accompagnerons tous les projets de montée en débit, encore une fois, si le projet est raisonnable d'un point de vue économique. Là aussi, je reprends l'exemple de la Haute-Marne. Nous sommes engagés à dégrouper 100% des sous-répartiteurs qui seront équipés par le département de la Haute-Marne. Ensuite, il y a la fibre. Il y a néanmoins certaines collectivités qui souhaitent, en complément ou en prolongation de leur projet de dégroupage ou de montée en débit, déployer des réseaux fibres. Nous sommes partenaires potentiels ou réels de ces projets de déploiement fibre. Nous avons notamment participé à l'expérimentation menée dans le cadre du grand emprunt à Issoire, et nous maintenons un dialogue sur ce sujet avec la région Auvergne et puis avec le département de la Manche également, avec d'autres projets. Je vous invite néanmoins à la plus grande prudence. Nous commençons à avoir une petite expérience dans le domaine de la fibre chez Free. On nous avait dit en 2007-2008, attention, déployer un réseau de boucle locale, c'est pas simple, il faut l'exploiter, etc. Bon, on est en 2011, on peut vous dire, effectivement, c'est pas simple. Dans les process sous-jacents aujourd'hui en France, il n'y a qu'un opérateur, deux peut-être, qui ont l'expérience d'une gestion d'un réseau de boucle locale de grande ampleur sur des décennies. Le principal, c'est France Télécom, bien sûr. Il ne faut pas forcément croire que n'importe quel acteur industriel va être capable, dans la durée, d'exploiter un réseau de boucle locale avec des processus qui soient homogènes à l'échelle nationale. Et on ne peut pas imaginer, enfin je ne sais pas si vous l'imaginez, avoir autant de modes de faire et de processus locaux qu'il y a de départements. On ne pourra pas différencier les modes de commercialisation, les modes de SAV, les délais, les pénalités, département par département, sinon nos téléconseillers vont devenir fous et nos collaborateurs, nos 800 collaborateurs qui interviennent chez les abonnés pour réparer les réseaux, pour entrer en relation avec l'opérateur de boucle locale, donc aujourd'hui essentiellement France Télécom, pour réparer les réseaux lorsqu'ils sont défectueux, vont devenir fous également s'ils doivent d'une commune à l'autre, voire d'un département à l'autre, changer leur mode de faire. Ça coûterait un argent probablement important, mais plus qu'une question d'argent, c'est une question juste de praticabilité industrielle. Et puis peut-être un tout dernier mot. Je rejoins là aussi ce qu'a dit le. Je le remercie, le monsieur le sénateur Moret. Nous payons entre 4 et 500 millions de taxes tous les ans, de nouveau sur un chiffre d'affaires de 2 milliards. Donc nous payons 25% de notre chiffre d'affaires en taxes TVA et taxes diverses et variées. Nous avons environ 14 taxes sectorielles. C'est un record du monde. Finançons la création, les auteurs, le cinéma, la musique, France Télévisions et j'en passe. Il n'est pas évident qu'empiler une 15e taxe, puis une 16e, puis une 17e soit le meilleur moyen de renforcer la compétitivité numérique du pays. Merci beaucoup.
Merci Laurent. Je reconnais la capacité à transformer des questions en nouvelles questions.